Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi, il est 18h à Kinshasa, voici le journal. Ouverture ce samedi à Kinshasa du séminaire des députés provinciaux. Ces assises de 10 jours portent notamment sur l'information, la sensibilisation et l'appropriation du programme de développement local de 147 territoires du Congo profond. Ouverture également ce samedi à Goma de la conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga. La MONUSCO parle d'une opportunité exceptionnelle d'échange scientifique entre volcanologues et acteurs clés pour prévenir les éventuelles éruptions. Notre invité, c'est la chef de projet à l'OIT contre le travail des enfants dans les mines. José Blandine Ngoto parle d'un atelier organisé récemment à Lubumbashi à ces sujets. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydore Basunga. Plus de 7 Congolais sur 10 vivent sous les seuils de pauvreté à ce jour, avec des fortes disparités entre les villes et le monde rural où vit la majorité des Congolais, confrontés à de fortes inégalités socio-économiques. Rappel fait ce samedi au Palais du Peuple ici à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi Tshilombo devant les députés provinciaux réunis en un séminaire de 10 jours. Ces assises portent sur l'information, la sensibilisation et l'appropriation du programme de développement local de 147 territoires du Congo profond. Un reportage de Billy Van Lutumba.
À travers ce séminaire, le gouvernement congolais sur initiative du président de la République attend voir les députés provinciaux être ceux qui vont porter cet ambitieux programme à une concrétisation efficiente et palpable quant aux résultats. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre.
Il est attendu dans la mise en œuvre de ce programme des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme, des impacts réels, perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à travers notamment le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire et l'accès des jeunes ainsi que des femmes aux activités génératrices de revenus des populations rurales.
Dans la foulée, Félix Tshisekedi affirme que depuis plus de 60 ans, la RDC peine encore à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène pour améliorer les conditions de vie de ses populations. Motif de sa détermination à travers laquelle il invite les députés provinciaux à s'en approprier.
Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple.
Rappelons que le coût du programme est estimé à 1,66 milliard de dollars. Il sera financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce samedi à Goma de la conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga. C'était en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Katim Diagne, parlait d'une opportunité exceptionnelle d'échange scientifique entre vulcanologues et autres acteurs clés pour prévenir d'éventuelles éruptions. Il parle de l'implication de la MONUSCO dans ses assises. Il a été joint par Mathieu Ilunga Chamboui.
Nous saluons l'initiative qui a été prise par le gouvernement. La gestion du volcan est une affaire qui concerne non seulement le gouvernement congolais, mais qui intéresse également, qui implique la région, mais également la communauté internationale. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une présence assez remarquable de scientifiques venant de tous les horizons du continent. Et nous avons nous-mêmes, au niveau de la MONUSCO, un représentant scientifique, un expert qu'on a dépêché. Je pense que le gouvernement a été extrêmement visionnaire en regroupant tous les scientifiques pratiquement du monde entier pour réfléchir de façon scientifique comment gérer une prochaine éruption, parce qu'on parle de cela, la surveillance, mais également lorsqu'il y a éruption, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, parce que la dernière éruption de 2021 a montré qu'il y avait des défaillances dans le système. Et cette conférence tombe à point nommé. Nous allons contribuer au débat, aux discussions. C'est déjà un très, très grand pas. Nous verrons comment est-ce que notre contribution pourra être améliorée sur la base des recommandations qui vont émaner de ces assises.
Prennent part aux assises de Goma le ministre de l'Aménagement du Territoire, celui de la Recherche Scientifique, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, de l'Industrie, ainsi que celui de la Santé Publique. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème d'un échange entre les femmes venues du Rwanda, du Burundi et de la RDC dans le cadre de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs. L'échange sera sanctionné à l'issue de l'échange. Il y aura la mise en place d'un réseau genre climat pour renforcer la coopération régionale et faire participer les femmes dans les négociations sur les climats. À Lubumbashi, Jean Gandou.
Parmi ces femmes, on compte les maires de villes dans la région de Grand Lac, les femmes opératrices économiques de la région, les femmes leaders, membres de la société civile, celles des partis politiques, des médias et autres. Pour les organisateurs, les problèmes liés au changement climatique et à la durabilité ont des répercussions durables sur notre environnement et sur le développement économique et social. Ceux qui sont les plus vulnérables en subissent les retombées. Et les femmes sont reconnues comme étant les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Et à travers le monde, les femmes constituent la majorité des personnes pauvres et sont de plus en plus dépendantes des ressources naturelles qui, malheureusement, sont aussi menacées par les changements climatiques. C'est dans ce contexte que le maire adjoint de Lubumbashi a demandé que chacun prenne à bras le corps le combat contre le réchauffement climatique. Lauriane Mwewa.
Ceci est pour nous la raison valable pour nous exhorter à chacune et à chacun à prendre à bras le corps le combat contre le réchauffement climatique. Pour y arriver, le monde a besoin d'une sorte de l'union sacrée autour du genre, où les hommes, les femmes sont logés à la même enseigne, sans discrimination aucune.
Notons que ces assises bénéficient du soutien financier de l'Association internationale des maires francophones. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans l'actualité, il y a également le lancement ce samedi à Mbandaka de la campagne dénommée « Pas une école sans banc en RDC », un projet appuyé par le Fonds des promotions de l'éducation nationale en vue de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement fondamental. Cette activité a été lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. À Mbandaka, le récit de Paul Richard Malengela.
Parmi les efforts induits de la gratuité à l'Équateur, il y a l'afflux des élèves dans les écoles et par conséquent les difficultés de leur accueil. Aussitôt arrivé en Mbandaka, le ministre de l'EPC Tony Mwaba a procédé d'abord à la remise symbolique de 100 bancs à l'EPE Kipoy en soutien à la gratuité. Ceci dans le cadre de la campagne Pas une école sans bancs qu'il a initiée avec l'appui du FPN.
Vous savez qu'un début, nous avons dit c'était une campagne. Ça s'arrêtera les jours où nous rassurerons qu'il n'y a plus d'école sans banc à la République démocratique du Congo. Il y a déjà 1000 bancs. On va cibler les écoles. Nous allons donner pour la première vague et la deuxième.
Avec une joie immense, le gouverneur de l'Équateur a reçu le premier lot en attendant le complément des 1000 bancs prévus pour sa province. Mais autant pour la fabrication de ces bancs que pour la construction ou réhabilitation scolaire, Dieudonné Boboloko a plaidé pour le recours à la main-d'œuvre locale.
L'école que vous voyez ici, c'est comme l'école qu'on vient de construire il y a de cela une année. Mais l'école a fait maintenant plus de 20 ans. C'est pour dire qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent bien construire les écoles au lieu de nous amener des entreprises de Kinshasa.
Notons que le ministre de l'EPST conduit une forte délégation des animateurs de son secteur. Après le Congo central et l'ex-Bandundu, a dit le professeur Tony Mwaba, il est arrivé le temps pour le Grand Équateur d'avoir des réponses à toutes les préoccupations relatives à la gratuité prônées par le chef de l'État. Mbandaka, Paul Chomalingue, la Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où plusieurs veuves et orphelins des enseignants décédés ne touchent pas la rente. Le secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo rappelle que lorsqu'un enseignant est décédé, sa famille doit toucher son salaire pendant 6 mois. Mais les veuves et orphelins de Boutembo, dont les salaires transitent par la Tembe, ne sont pas payés depuis 2019. Irène Moutoumoua l'a dit au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Depuis 2019, il y a d'ailleurs même des temps antérieurs, vraiment, un grand nombre de décédés ne sont pas servis à la TND. Il n'y a que la TND qui ne s'est pas servie parce que Rawbank et Petit Bank sont en train quand même de s'efforcer de payer progressivement le salaire posthume une fois la déclaration de décès déjà approuvée. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous avons décrié cela depuis des années. La TND n'a pas vraiment de raison parce que plusieurs fois nous avons vu le gérard et il dit bon voilà c'est Kinshasa qui ordonne. Nous avons écrit à Kinshasa, nous avons même écrit à l'ordinateur délégué, lui, le service technique s'est coupé, mais il n'y a pas de suite. Le problème pour notre compréhension est local parce que le compte des enseignants décédés continue à être alimenté jusqu'à ce que le décédé soit remplacé par celui qui va continuer la charge.
En réaction à cette préoccupation, le gérant de la Tembe, Boutembo, dit ne pas être au courant de cette situation. Désiré Namegabe invite le CIECO à ramener tous les documents en vue de traiter les cas individuellement. Autre nouvelle en plus bref, cette mise au point de Congo Airways à propos des deux avions de Kenya Airways qui ont été retirés selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué rendu public ce week-end à Kinshasa, Congo Airways indique que le partenariat avec Kenya Airways sur la location des deux aéronefs n'a pas été renouvelé pour des raisons opérationnelles. Congo Airways rassure cependant ses clients que cela n'aura aucune incidence sur ses services. La compagnie nationale ajoute que sa flotte sera renforcée bientôt par le retour imminent de son Airbus qui est en entretien au Maroc. Justice à présent. Les avocats d'Eli Lungumbu Mulonge, ancien administrateur à l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, dénoncent la détention prolongée de leurs clients dans les cachots du service de renseignement à Kinshasa en violation des dispositions légales. Dans un point de presse animé ce samedi à Kinshasa, ces avocats ont exigé sa libération. À défaut, ils exigent que leurs clients soient transférés devant son juge naturel. Des précisions avec Maître Valentin Mulonda dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Monsieur Eli Lungumbu n'a pas été entendu jusqu'à ce jour. Il ne connaît pas les motifs de son interpellation. Nous n'avons pas accès à ce jour. La famille ou ses enfants voudraient savoir de quoi il est reproché. Et évidemment, il doit être transféré devant son juge naturel. Présenter ses moyens de défense. Nous pensons que c'est l'occasion de rappeler les autorités de ce pays. Ces institutions ou ces services ne doivent pas fonctionner contre ses propres citoyens. Et pour le cas de M. Eli Lungumbu, il a servi la République. Il fit redoc et à ce jour, il devrait bénéficier d'un traitement digne de soi.
Est-ce qu'il est reproché à l'ancien administrateur Eli de démissionner de ses fonctions pour qu'il soit arrêté?
Selon la loi, le statut des agents de carrière de l'État, la démission c'est un droit. Et dans ces pays, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans les services de sécurité et qui ont quitté volontairement. Et à ce jour, ils sont dans d'autres postes de responsabilité.
Rappelons que Eli Lungumbu s'est vu refuser lors de son arrestation le 26 février dernier d'aller à l'étranger en raison de ses activités privées. Son passeport lui a été également confisqué et il a été conduit à l'ANR selon ses avocats. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et coordonnateur des affaires humanitaires séjourne depuis vendredi à Bunia. Bruno Lemarki s'est rendu ce samedi matin dans le territoire de Djougou pour évaluer la situation des déplacés. Hier vendredi, il a échangé avec le gouverneur de province, les chefs coutumiers et les agences du système des Nations Unies sur la situation d'environ 2 millions de déplacés. Il est au micro d'Isaac Remoyope.
Le représentant spécial en charge des affaires humanitaires Bruno Lemarki s'est rendu tour à tour au site d'Englé, de la plaine de Savo, centre commercial de Boulé, et au site de Loda et de Djaïba qui hébergent au total environ 100 000 déplacés. Ces derniers se disent asphyxiés par la présence des miliciens de la Codeco proche de leur site dont les menaces sont permanentes, ce qui les empêche de se rendre au champ. Ils se disent privés de tout. Pour eux, la visite de cette haute personnalité de l'ONU en RDC offre une lueur d'espoir pour l'accroissement de l'aide humanitaire et la pacification de la province, les présidents des trois sites de Boulé.
Trop, c'est trop. Allez faire les plaidoyers au chef de l'État. L'État des déplacés, c'est à la frontière directement où là, les assaillants peuvent venir à tout moment pour garantir la sécurité dans nos zones. Et je prierai demain ou lendemain, les humanitaires seront très nombreux et tout ce que les déplacés veulent, ils les auront.
Le représentant spécial adjoint en charge des affaires humanitaires a déclaré que les agences des Nations Unies et les ONG internationales font beaucoup pour se déplacer. Ils font l'intervention à tous les échelons pour répondre tant soit aux besoins croissants de se déplacer, ajoute-t-il. Bruno Lemarki.
Il y a énormément de problèmes qui ont été rapportés. Beaucoup de souffrances. Déjà, il y a énormément d'organisations des Nations Unies qui sont présentes pour faire bouger les choses.
Pour se déplacer, la solution durable à la crise humanitaire en Ituri et le rétablissement de la paix. Des retours de Djougou, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci Isaac Remoyope pour ce reportage.
Actualité internationale.
Au moins 22 personnes ont été tuées et 38 autres grièvement blessées hier après-midi dans une collision d'un car de voyageurs avec un camion dans l'est de la Tanzanie. À cette occasion, la chef de l'État, Madame Samia Suluhu Hassan, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Elle a également exhorté les usagers de la route à respecter scrupuleusement les règles de circulation. Après un an de brouille diplomatique majeure, l'Espagne et le Maroc ont normalisé ce vendredi leurs relations diplomatiques à la faveur d'un geste de soutien qui a été réclamé de longue date par Rabat à Madrid sous le dossier hautement sensible du Sahara occidental, un coup de théâtre de Madrid qui a surpris la classe politique espagnole.
L'invité.
Notre invité, c'est la chef de projet à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, chargée de renforcement des capacités contre le travail des enfants dans les mines. Madame José Blandine Ongoto parle de l'atelier tenu dans ce sens du 17 au 18 mars à Lubumbashi. Elle s'entretient avec Jean Gandou.
José Blandine Ongoto, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut entendre par travail des enfants dans les mines?
Quand nous parlons du travail des enfants dans les mines, nous voyons la présence des enfants et le travail des enfants. Vous avez des enfants de moins de 5 ans qui sont là en train de trier les pierres. Vous avez des enfants qui sont là en train de transporter, ça peut être de l'eau, mais ils ne doivent pas le faire parce que c'est pas la place qui leur convient. Ils sont exposés à beaucoup de dangers par rapport à leur âge, par rapport à leur santé. Tout travail que l'enfant fait dans les mines n'est pas acceptable. Que ce soit dans le puits, que ce soit sur la surface, ce n'est pas toléré. C'est considéré comme pire forme de travail des enfants, compte tenu des impacts sur la croissance de l'enfant et son développement mental et physique.
Comment les faire partir de ces milieux?
Faire partir les enfants du milieu nous ramène donc à la lutte contre le travail des enfants dans les mines, qui est une thématique que le gouvernement de la RDC prend vraiment à cœur. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été menés jusque-là, à commencer par la mise en place d'un cadre légal et politique fort. Vous avez aussi l'appui que plusieurs partenaires apportent à la RDC pour éradiquer ce fléau. Cependant, le manque de coordination qui existe entre les différentes interventions cause un problème. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important, à travers un plaidoyer fort, amener tous les partenaires à travailler ensemble selon la vision et le programme de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le travail des enfants en général.
Les enlever des sites miniers ou des mines pour les amener où en fait?
Ça c'est une très bonne question. Nous sommes ici pour un atelier. Nous allons faire une consultation auprès de nos partenaires sur un outil de politique que nous appelons mécanisme ou système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. C'est un outil de politique que le gouvernement de la RDC a présenté comme promesse d'action pour l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. C'est un outil qui montre le mécanisme du retrait des enfants, comment on les identifie, on enregistre dans une base de données. Les informations enregistrées informent le système ou le mécanisme de référencement. Les enfants sont encadrés selon les besoins, selon les âges, pour leur réinsertion sociale. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que les enfants qui étaient retirés, qui étaient formés, repartaient parce qu'il n'y avait pas de suivi, ils étaient abandonnés à eux-mêmes après. Donc le système, qui est un outil de politique congolaise, permettra de faire un suivi régulier pour s'assurer que les enfants sortis des mines, qui sont orientés soit vers des formations ou vers l'école ou encore dont les parents sont renforcés pour améliorer les revenus de leur ménage, sont suivis pour s'assurer que ces enfants ne repartent plus. Donc c'est le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place à la demande du gouvernement de la RDC.
Et là nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Est-ce que dans cette province il y a des enfants dans les mines? Si oui, quelles mines et il serait au nombre de combien?
Le projet que nous menons couvre bien sûr les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Le travail des enfants est présent dans les mines artisanales dans la région. Le gouvernement reconnaît la présence et le travail des enfants dans les mines artisanales dans cette région. Quant au nombre, c'est une question très très difficile à répondre, je dirais, compte tenu du manque de coordination. Et je crois qu'avec ce système qui est le mécanisme de suivi et de remédiation, nous avons une base de données qui sera nourrie par l'identification des outils standards que nous sommes appelés, nous partenaires, à utiliser tous pour permettre au gouvernement de la RDC d'avoir une idée claire de combien d'enfants il y a dans les mines. Sinon, nous sommes en train de combattre un invisible, parce que ça peut être plus, ça peut être moins. Il est vraiment important que nous sachions combien d'enfants il y a pour que nous puissions apporter des solutions adaptées.
Mais pourquoi ne pas aussi associer les parents de ces enfants s'ils sont connus, afin que cette lutte soit commune?
Quand nous parlons de l'identification, ça passe par non seulement les parents, les communautés concernées, les leaders communautaires. C'est l'approche de ce que nous appelons en anglais CLMS, le Child Labor Monitoring System. C'est surtout les communautés concernées qui sont impliquées, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. C'est sous la direction du gouvernement avec l'appui des partenaires. Pourquoi les enfants sont dans les mines? La réponse, c'est la pauvreté. Alors, si vous sortez les enfants, ceux qui sont jeunes, ils vont à l'école et ils reviennent à la maison après les cours, les parents sont là, ils les regardent. Est-ce qu'on va résoudre le problème? Non, les enfants vont repartir. C'est pour dire qu'au niveau du référencement, on ne prend pas soin que des enfants. Sinon, on ne va pas régler le problème parce que la cause principale du travail des enfants, c'est d'abord la pauvreté des parents. Donc, au niveau du référencement, nous travaillerons aussi avec les parents pour les aider à améliorer leurs conditions sociales, leur permettre de mieux prendre soin de leurs enfants. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons espérer que les enfants ne repartiront plus.
José Blandé Nongoto, je vous remercie.
Je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, la chef de projet à l'OIT, chargée du renforcement des capacités contre le travail des enfants dans les mines. José Blandine Ongoto était interviewé à Lubumbashi par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Pierrot Elameji et Noëlla Luzitu Kabambi qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.